Saga Africa, Yannick Noah, le grand Yannick Noah est un souvenir de France et surtout du Cameroun où nous serons dans quelques minutes dans un nouveau numéro de Mars Afrique.
Mars Africa.
Bonjour le Maroc, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Mars Africa. Nous parlerons beaucoup des Jeux Olympiques, nous parlerons également de l'actualité mercato des grandes stars de notre continent. Certains sont très courtisés et puis n'oublions pas aussi toute l'actualité relative au championnat national avec une première escale à Conakry en Guinée en compagnie de Chérif Alliou. Bonjour Chérif.
Bonjour Amine, bonjour à tout le peuple marocain.
Alors Chérif a aujourd'hui l'honneur de démarrer l'émission avec une première escale dans le championnat national où la lutte bat son plein et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de suspense.
Ah oui, un championnat passionnant cette saison, Amine, il faut le souligner, puisque un point seulement sépare le premier du deuxième. Le Afia, pour l'instant, est en tête avec 48 points suivis du milieu FC de Cancan qui lui compte 47 points. Sauf que, il y a du rififi concernant ce championnat-là, parce que lors de la 25e journée, il y a eu le match qui a opposé l'AS Kaloum au milieu FC de Cancan. Le match n'a pas pu aller à son terme parce qu'il y a eu des incidents intervenus lors de la mi-temps. Les joueurs des Milo qui ont été agressés par les supporters de l'AS Kaloum ont refusé de terminer la rencontre malheureusement, et le président de la fédération qui est venu à la mi-temps et qui est le PCA de l'AS Kaloum n'a pas arrangé la chose parce que voilà, il est venu prendre un peu d'honneur, il est reparti, c'est qu'il y a donc encore un mini piment au match, et du coup les joueurs du Milo ont refusé de terminer la rencontre. Et donc, les deux équipes ont quitté le stade à cette tension-là. Et bien, désormais, les regards sont tournés vers la LGFP.
Difficulté à voir Chérif Alliou de manière audible. On essaiera, bien évidemment, de le recontacter dans les prochaines secondes. Donc, on parlait d'un championnat dominé par le Afia Conakry et l'équipe de Milo suit. 48 points pour le Afia Conakry, 14 victoires, 6 nuls et 5 défaites. Et Milo suit à un seul point, avec un match en moins, et du rififi. Bon, comme d'habitude, il y a toujours des contestations, il y a toujours des petits soucis dans l'organisation des championnats. Alors, Chérif, on revenait à ce mano-mano entre le Afia et Milo au milieu de la polémique.
Donc, je le disais, que ce match qui opposait donc l'AS Kaloum au Milo FC de Cancan, pour le compte de la 25e journée, n'est pas allé à son terme. Voilà, parce qu'il y a eu des incidents où un joueur du Milo a été blessé à la tête, et donc l'équipe du Milo a refusé donc de finir le match. Et bien, en pareille circonstance, lorsque une équipe refuse de finir le match, ben elle perd sur un tapis vert. Sauf que le Milo estime que l'équipe n'était pas en sécurité et donc elle ne pouvait pas terminer le match. Maintenant, c'est à la fédération, disons à la ligue, de trancher dans ce dossier-là entre le Milo et l'équipe de l'AS Kaloum. Si jamais le Milo vient à prendre les 3 points, ben le Milo sera sacré champion à une journée de la fin du championnat, puisque le Milo recevra à domicile la Chantilly. Ce sera donc le 2 juillet prochain, alors que l'équipe de Afia recevra pour sa part l'équipe de l'AS Kaloum à domicile également. Et donc, il n'y a que l'AS Kaloum qui jouera les arbitres, mais on attend bien évidemment la décision de la Ligue concernant ce match polémique entre l'AS Kaloum et le Milo FC de Cancan.
Et puis on va parler mercato de la star du football guinéen, l'attaquant international Serougui Rassi, qui a donné son feu vert pour quitter Stuttgart un an seulement après son arrivée. Je pense que la clause est assez abordable pour les grandes d'Europe, puisqu'elle n'est fixée qu'à 17,5 millions d'euros.
Et c'est bien sûr l'équipe de Dortmund qui pourrait voir arriver l'attaquant du Sud de Guinée, Serougui Rassi, en tout cas en croire à beaucoup de médias. Il retrouve un accord avec l'équipe de Dortmund voilà, pour donc les prochaines saisons. Serougui Rassi, on le rappellera, a fait une saison exceptionnelle avec l'équipe de Stuttgart. Et donc, il était annoncé dans beaucoup de clubs, notamment au Milan AC, à Arsenal et à Dortmund, comme je viens de le souligner. Et tout pour t'en croire qu'il portera la saison prochaine la couleur du BVB, voilà, pour les années à venir. Serougui Rassi, qui est également en liste pour le Ballon d'Or africain au vu de la saison qu'il a eu à réaliser avec Stuttgart. Sauf que, avec le Sili, ça coince, parce qu'une fois en sélection, Sékou Guirassy est muet. Voilà, en tout cas, il n'est pas bien avec l'équipe du Chili. Maintenant, on espère que voilà, ce transfert qui va arriver pour lui, lui permettra en tout cas de se libérer et enfin de flamber comme il le faut avec l'équipe des Kabak Diawara. Et on annonce d'ailleurs qu'il sera des JO, des Jeux Olympiques, puisque il est dans la liste que Kaba va bientôt communiquer. Parlant des JO, il faudrait que c'est aujourd'hui que le drapeau sera remis à la délégation guinéenne qui prendra part donc à ces Jeux Olympiques là. Et donc on attend de savoir si bien évidemment Sékou Guirassy sera de la partie avec la Guinée pour le compte des Jeux Olympiques.
Rappelons que le football, la FIFA, ce ne sont pas des dates FIFA, le tournoi de football. Et donc il faut négocier de gré à gré avec les clubs. C'est souvent une négociation tripartite entre le joueur, la fédération et le club concerné. Alors mon cher Chérif, en parlant justement des JO, il y a la sélection de football qui participe pour la première fois depuis 1968, l'édition de Mexico. Quelles sont les véritables chances ou aspirations de la Guinée lors de cette édition de Paris 2024?
Ça sera compliqué, hein, Amine, hein, vu la poule de la Guinée, ça sera hyper compliqué, notamment avec l'équipe, le pays hôte qui est la France. Les États-Unis également hein, sont dans ce groupe de la Guinée. Maintenant, on sait que voilà, l'équipe guinéenne est une équipe imprévisible. Hein. Chaque fois qu'on annonce en difficulté, elle s'en sort à la surprise générale. Alors maintenant, est-ce que Kaba aura vraiment le temps hein, de mettre en place une bonne équipe? Parce que jusqu'à présent, l'équipe n'est pas encore en regroupement, alors que les JO commencent très très bientôt, d'où l'inquiétude de beaucoup de personnes. Voilà, c'est vrai que voilà, c'est ce qu'on a vu hein, lors des phases préliminaires, l'équipe a montré de très belles choses, mais là ce sera un autre niveau hein, avec des équipes bien aguerries, bien préparées, puisque la France, comme je le disais, a commencé le stage depuis maintenant quoi 2 à 3 semaines. Alors que de Guinéens, pour l'instant pas de regroupement, même si on annonce un match amical très bientôt du côté de la France, mais ça ne suffira pas hein, pour faire une bonne campagne. Maintenant, on croise les doigts, on verra bien hein, si Kaba Diawara et son équipe pourront sortir. Mais en tout cas, on voit mal l'équipe de Guinée hein, vraiment flamber dans cette compétition qui est bien sûr les Jeux Olympiques. Mais encore une fois, je le dis, la Guinée est une équipe qui sait surprendre. On espère qu'elle surprendra hein, de façon agréable.
Merci infiniment, Chérif Aliou, et on espère que la Guinée ira le plus loin possible dans le tournoi de football. Et on verra également les représentants guinéens dans les autres disciplines, comment ils pourront se comporter lors de cette édition de Paris 2024. Il est 10h15, Chinois Casablanca, 9h15, un peu partout, notamment sur le fuseau horaire qui concerne l'Afrique de l'Ouest, où nous allons d'ailleurs rester puisque nous aurons dans quelques secondes, voilà, c'est fait, Élisée Onkpati depuis Boïkon au Bénin. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Amine Birouk et bonjour Bénin.
Alors aujourd'hui, on va parler un peu des JO et on va parler surtout de ces querelles ou de ce bras de fer qui existe souvent entre les fédérations qui souhaiteraient engager leurs meilleurs joueurs, notamment ceux âgés de plus de 23 ans, dans l'édition olympique et les clubs européens qui s'en tiennent au règlement puisque ce n'est pas une date FIFA. Ça concerne beaucoup, beaucoup de joueurs africains. En tout cas, les représentants des 4 sélections africaines ou les 4 fédérations africaines, à savoir le Maroc, l'Égypte, la Guinée et le Mali, sont coincés.
Et bien évidemment, et sur ce fait, moi, je n'accorde n'accuserai pas forcément les différents clubs ni la FIFA. Et cela concerne bien évidemment la CEO qui quand même n'est jamais parvenue à s'entendre avec la FIFA. Et pourquoi organiser une si grande compétition, puisque c'est la compétition, mais les JO, quand on parle des Jeux Olympiques, c'est la toute première compétition qui réunit autant de disciplines à un seul endroit et au même moment, vous imaginez. Donc c'est la plus grande compétition que la planète Terre n'a jamais connue. Donc vous imaginez comment l'organiser, ne pas s'entendre avec les différentes fédérations. C'est vrai que bon, en basket, c'est pratiquement la saison est pratiquement terminée dans presque tous les pays, même en NBA avec le sacre de Boston récemment. Donc en handball, la saison est terminée. En football, c'est pratiquement la pré-préparation des clubs pour une nouvelle saison. Donc les Européens l'ont vu. et ont dédié pratiquement cette compétition à une relève. C'est bien évidemment préparer une relève puisque c'est une compétition qui n'aligne que des joueurs de moins de 23 ans. Donc, si les Européens l'ont pris de cette manière, pourquoi ne le feront-on, l'Afrique ne va pas imiter ainsi? C'est vrai que il y a aussi des joueurs qui ont moins de 23 ans et qui sont professionnels. Donc, c'est à ce niveau-là où le problème se situe. Si les Européens arrivent à avoir leurs joueurs, puisque la France, vous imaginez, la France a presque tous ses joueurs, seulement Bakola, convoqué par Didier Deschamps, et ainsi que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, dont Emery Zaï, voilà, donc, et hormis ces deux joueurs, Thierry Henry a presque tous ses joueurs. Donc, si des clubs français ou européens arrivent à libérer leurs joueurs, pourquoi ils ne le feront pas pour les sélections africaines? C'est à ce niveau-là où la CIO doit s'entendre forcément avec la FIFA afin que des joueurs puissent être mis à la disposition de leurs sélections, puisque ça concerne aussi les équipes nationales. Et selon les règlements de la FIFA, quand un joueur veut défendre son pays, je ne vois pas quel club qui pourra le garder. C'est vrai que c'est le club qui le paie et que en soudine, le club peut lui mettre la pression et au dernier moment, le joueur peut refuser. Mais c'est déplorable de ne pas avoir tous ces joueurs puisque le Maroc, et en tout cas le Mali et la Guinée, les pays qualifiés sur le continent africain, ne verront pas la totalité de leurs joueurs. C'est dommage, on ne verra pas encore de si tôt une sélection africaine remporter la médaille d'or comme l'a fait le Nigeria et le Cameroun.
Je préciserai aussi que concernant les joueurs français, le Real Madrid n'a pas accordé d'autorisation concernant ces Français, c'est-à-dire les Tchouaméni, Kamavinga et surtout Kylian Mbappé. Donc,
c'est vraiment difficile.
Ah ben oui, mais parce que la FIFA protège sa poule aux œufs d'or qui est la Coupe du Monde. Donner une toute autre dimension au tournoi de football olympique serait peut-être rogner des parts de marché concernant la FIFA qui conserve, qui défend jalousement ses prérogatives. Alors on va parler aussi Mercato. Il y a de nombreux joueurs africains qui sont en train de changer de direction. On parle de Guirassy à Dortmund. On parle du transfert enfin conclu de Ziyech à Galatasaray. Il a été prêté cette saison par Chelsea. Il y a beaucoup de joueurs qui vont bouger et qui n'ont peut-être pas la tête au JO, ni la tête à pouvoir défendre les couleurs de leur pays parce qu'ils sont fatigués. En même temps, ils ont peut-être le souci d'assurer leur avenir.
Ouais, et deux semaines seulement de congé. Et vous imaginez, il faudra et gérer son transfert, gérer ces genres de choses. Vous voyez, c'est difficile et c'est pour ça. Quand ils ont la tête dans le mercato, ça s'annonce très compliqué pour eux. Hakim Ziyech qui a connu une saison difficile ou bien des saisons difficiles du côté de Chelsea après avoir fait forte sensation avec l'Ajax d'Amsterdam. J'y arrive. Après avoir battu le Real Madrid, vous imaginez, en Ligue des Champions, avec cette saison fantastique, eh bien, il a été transféré du côté de Chelsea. À Chelsea, tout ne s'est pas bien passé. Il a connu des saisons difficiles et il est allé se relancer du côté de Galatasaray avec cette saison époustouflante. Vous imaginez, donc, ce n'est que le prix de ce travail-là, puisqu'il a travaillé fort du côté de la Turquie. La Turquie, lui, s'est bien épanouie. Hein, donc, il va maintenant signer son contrat et continuer sa saison de l'autre côté. Le meilleur buteur de la Bundesliga, le Guinéen Guirassy, qui se lance dans une nouvelle aventure du côté de la roue, vous imaginez, du côté de Borussia Dortmund, où déjà Sébastien Haller, notre attaquant africain, il figure également. Donc, cela montre clairement que Sébastien Haller va devoir partir, puisque si les dirigeants de Dortmund ont souhaité leur dévolu sur l'attaquant guinéen, cela montre clairement que ils vont pousser vers la sorti quand même l'attaquant ivoirien. Vous voyez, ce qui, moi, me fait de la peine souvent, quand on entend le prix que les clubs attribuent aux joueurs africains, franchement, et je n'arrive souvent pas à comprendre. Amine Birouk, vous imaginez le meilleur buteur de la Bundesliga qui est acheté par le Borussia Dortmund à ce prix-là. Si c'était Guirassy ou encore Guirassy, un Européen, je parie que au moins on pourrait le Stuttgart pourrait tirer pas moins de 50 ou 60 millions d'euros, mais l'acheter à ce prix-là, c'est ça que moi je n'arrive souvent pas à comprendre. Sur le marché, les joueurs africains, franchement, ne sont pas gérés comme les autres joueurs. Bon, peut-être que Transfermarkt a ses secrets, ou les managers ou les agents de joueurs leurs secrets. Sinon, moi, j'aimerais que un agent de joueurs ou un manager vienne nous expliquer comment on peut acheter un joueur meilleur buteur de la Bundesliga à ce prix-là. Dommage. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. On leur souhaite une très belle saison, puisqu'ils n'ont qu'à chercher à confirmer du côté de l'Allemagne ou bien du côté de la Turquie. D'autres joueurs africains aussi vont changer de club, notamment, puisque au Bénin, on annonce quand même l'ancien attaquant de Lorient, le club qui a été relégué en deuxième division, Tosin Ayegbu, sur l'OITB, la chaîne nationale. Il a évoqué que très prochainement, il va changer de club, puisqu'il n'aimerait pas évoluer en deuxième division. Donc, en tout cas, ça bouge, ça change. Et on aimerait voir aussi de grands joueurs africains évoluer dans des très grands championnats, pour que chaque week-end, on puisse se régaler.
Et on continuera à se régaler avec nos joueurs africains un peu partout sur le vieux continent. Merci beaucoup, Élisée Onkpatine. Il est 10h23 minutes. Nous transiterons forcément par le Mali dans quelques instants avec notre ami Drissa Nyono, puisque le Mali est qualifié aussi au tournoi de football des Jeux Olympiques. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités en ce qui concerne le Mali. Nous serons également du côté de la RDC dans quelques minutes. Mais en attendant, on va faire escale du côté de Bamako. Bonjour Drissa Nyono.
Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous.
Alors Drissa, on va commencer par le programme de préparation des Aiglons du Mali pour les JO. Il n'y a pas moins de 3 matchs amicaux qui sont en prévision.
Finalement, ce sera 2 matchs amicaux, parce que hier, à l'issue de la séance d'entraînement ouverte aux journalistes, nous avons posé la question au coach Alou Badra Diallo Konti. Il nous avait fait savoir que le stade Lavallois, donc un nouveau coach, et que celui-ci a décidé d'annuler ce premier match qui était prévu le 12 juillet du côté de Paris. Donc finalement, les Aigles vont affronter Caen, donc le 19, avant d'affronter donc une équipe entre parenthèses de quartier, Bobigny, et donc le 19, donc avant de prendre ce quartier du côté de Paris. Donc, pour jouer son premier match au stade, au Parc des Princes. En tout cas, dans l'une des Aigles, tout le monde était au rendez-vous, sauf Mamadou Sangaré, qu'on nomme ici gaucher, donc qui a quitté l'une des Aigles hier nuit, donc en négociation avancée avec son un nouveau club. Donc, son club Adberg lui a exigé donc de revenir à la maison pour aller finaliser donc ce contrat. En tout cas, un garçon qui est le meneur de jeu de cette formation de I23 du Mali, dont le coach nous a exprimé d'avoir regretté son départ. Et donc, mais il y a des pierres de rechange, un garçon notamment comme Abdou Salam Agidou, qui a été demi-finaliste de la Coupe du Monde Junior avec les Aigles Juniors, mais qui était du côté de Montpellier, qui est revenu du côté de l'Entente Sétif et qui a performé. Et là, il a été appelé comme l'un des 3 cadres qui vont accompagner cette formation malienne du côté de Paris. Il s'agit d'Abdou Salam Guidou et Ali Irango également, un ancien gardien du Djelba Athletic Club, et Damba Diallo, qui a été finaliste malheureux contre le Maroc lors du CHAN joué du côté du Cameroun. En tout cas, les Aigles sont là, ils sont au nombre de 28, et là, il va falloir écarter 4. Et là, on connaîtra la liste officielle à partir du 3 juillet prochain.
Alors, justement, il y a du rififi du côté de la Fédération malienne. Mais si tu veux, on va en parler avec la suspension du capitaine Amari Traoré. Le temps d'une insertion publicitaire, elle durera 2 minutes exactement.
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وكان احتكى الله في كل مكان احتكى المهرجان الدولي مغرب الحكايات مهرجان الرواة والرويات اللي جايين من كل بلادات هالدورة نحكي لكم حكاية عويشة والحراس اللي تولدات في هاد المكان وكيف سافرت الحكاية بعشيقها من دول وبلدان قطع بها 7 بحور من قبة مولاي إدريس للأقصى وحسان مشات بينا ليا من الحمرة والأندلس بالهمة والشان ترسخات كأنها الأهرامات أو حتى ساعة بيقبان هذه حكايتنا سلم كان على شلة والنون منذ قرون نحكيها لكم بكل لسون مغرب الحكايات ملتقى رواة العالم الأماكن تحكي فيه تاريخ الإنسان تحكي ذاكرة الوطن
مغرب الحكايات بشراكة مع راديو مارس من 1 حتى 8 يوليوز 2024 بمختلف فضاءات مدينة الرباط
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تنظم الجامعة الملكية المغربية للفروسية الدورة 39 لأسبوع الفرس سيشارك أفضل الفرسان والخيول بالمملكة في بطولة المغرب للقفز على الحواجز والترويض من 29 يونيو إلى 7 يوليوز 2024 بدار السلام بالرباط
Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Morocco Today Forum, la conférence internationale du groupe Le Matin, revient pour sa 7e édition sous le thème « Vision d'un roi, l'Afrique atlantique pour une région continentale intégrée, inclusive et prospère » en partenariat avec l'Agence marocaine de coopération internationale et la région Dakhla Ouad Dahab. Cette rencontre se tiendra le vendredi 5 juillet 2024 au Palais des Congrès de Dakhla. Rendez-vous sur MTN.
Un événement en partenariat avec Radio Mars.
De retour parmi vous sur Mars Africa, il est 10h28 à Casablanca, 9h28 à Bamako. Nous sommes toujours en liaison avec notre ami Drissa Niono. Drissa, ça sent le roussi au sein de la Maison des Aigles, puisqu'il y a une polémique autour du capitaine Amari Traoré, qui était sommé de s'expliquer sous 48 heures et qui vient d'être suspendu par la Fédération.
Justement, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une convocation qui lui a été, une demande d'explication pour expliquer les termes du courrier qui lui a été envoyé. Et donc, il avait 48 heures pour y répondre. Bon, il était appelé à être présent dans 48 heures. Donc, je pense que c'est la suite logique de la situation tendue entre les Aigles du Mali, plusieurs joueurs, ici sont au nombre d'une quarantaine, et le comité exécutif de la Fédération malienne de football, des relations tendues qui avaient débuté depuis novembre 2023, avant le début de la CAN, qui sont poursuivis la veille de la CAN jusqu'à dépasser la compétition. Et là, finalement, c'est à la veille de ce voyage-là pour aller à Johannesburg que tout s'est encore empiré. Donc, suite au communiqué de la fédération pour demander aux joueurs un devoir de réserve, ce que les joueurs ont pris comme une cabale ou les mettre en pâture face à leurs supporters. Donc, raison pour laquelle ils se sont regroupés et aussi donc pour produire un communiqué partagé par ces 40 joueurs internationaux, donc pour appeler aussi leurs dirigeants à prendre leurs responsabilités. Donc, ce qui n'a pas plu du côté de la fédération encore, donc ils ont demandé au capitaine de venir s'expliquer. Alors, en tout cas, sur le plan juridique, il faut reconnaître que le comité exécutif n'a pas qualité de sanctionner un joueur, sauf si la commission d'éthique avait ouvert une enquête, une instruction pour terminer. Là, également, ils ont compris que c'est une façon également de mettre toute la responsabilité des récents échecs sur la tête du capitaine. Donc, comme un communiqué officiel n'a pas été annoncé par la fédération, donc d'après les informations que nous avons apprises, le courrier d'explication qui a été envoyé, Amari également a répondu à ce courrier, estimant que qu'il n'était pas, pour des raisons professionnelles et personnelles, qu'il n'était pas disponible pour être présent dans les 48 heures demandées dans la lettre et qu'il n'était pas non plus d'ailleurs le seul joueur ayant partagé également le message qui a été donc partagé sur les réseaux sociaux. Finalement, à l'issue de la réunion, et c'est avant-hier, qu'on a eu la lettre expliquant que le capitaine est suspendu à titre provisoire en attendant. Pour l'instant, quand même, le communiqué officiel qui devrait intervenir après n'est pas sorti parce que des questions juridiques et compétences de la fédération étaient mises en cause. Là, c'est une situation qui se complique encore une fois, mais on apprend que c'est au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, on s'implique pour essayer de voir les deux côtés, essayer de trouver une solution à cette situation. Sinon, les joueurs restent sur leur position pour dire que si ça change au niveau de la fédération, ils seront obligés eux aussi ils se réservent le droit de ne pas honorer la sélection au niveau de la fédération. Donc, on veut mettre la tête du capitaine à prix, donc afin de disloquer le groupe, ce qui n'est pas une solution.
Donc, merci pour toutes ces explications. On espère que tout va rentrer dans l'ordre du côté des Aigles du Mali, et qu'il n'y a pas lieu quand même d'avoir ce genre de polémique, surtout avec le capitaine d'équipe, le joueur de la Real Sociedad, Amari Traoré. 10h32, nous allons continuer à suivre de très près l'actualité sur notre continent. Nous sommes au Cameroun avec David Eyengue. Bonjour David.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars.
Alors David, cette semaine, les semaines au pluriel de polémiques se poursuivent avec Samuel Eto'o, qui a été auditionné par la Confédération africaine de football. Samuel Eto'o soupçonné, je dirais, de beaucoup de choses par la CAF.
Oui, je veux dire que le Cameroun a la particularité d'être toutes les semaines au devant de la scène quand ce n'est pas
David, est-ce que tu utilises un haut-parleur ou tu utilises un Bluetooth ou
j'utilise
le téléphone normal.
Non, j'utilise. Vous m'entendez pas bien? Vous m'entendez pas bien?
On a un bruit de fond qui est un peu désagréable. Je ne sais pas ce que. Il y a trop.
Je suis à une compétition de natation. J'ai dû quitter le site de la compétition pour
mieux t'entendre.
Avoir un endroit plus
calme. Voilà. Alors on disait Samuel Eto'o auditionné par la Confédération africaine de football, tenant et aboutissant de l'affaire David.
Samuel Eto'o auditionné par la Confédération africaine de football, vous savez, c'est un événement qui était attendu par tous les auditeurs, d'ailleurs, tous les sportifs, tous les amoureux du sport, et particulièrement du football au Cameroun. C'est un événement qui a dû diviser le Cameroun en deux, entre ceux qui soutenaient l'ancien goleador du Real Madrid, du FC Barcelone, et de Chelsea, et ceux qui le soutenaient, bien sûr, et d'un côté, et ceux qui ne le soutenaient pas, qui souhaitaient, n'est-ce pas, qu'il soit suspendu. Il y en a d'ailleurs qui pensaient que le seul fait d'être auditionné est une valeur de suspension. Et on avait même déjà, dans le dos de Samuel Eto'o, dessiné sa succession, en pensant que Céline Eco'o, premier vice-président, devait prendre les rênes de la Fédération camerounaise de football. Et Samuel lui-même n'est pas allé du dos de la cuillère, puisqu'il a demandé à la Confédération africaine de football de permettre que son audition se passe en direct. Nous savons bien qu'il y a une partie des tests de la Confédération africaine qui ne pouvait pas permettre que l'audition soit en direct. Et donc, on a donc eu une division dans l'opinion camerounaise entre ceux qui souhaitaient le voir en direct et ceux qui peut-être que cela se passe dans l'anonymat, dans la toute discrétion de la CAF, et on sait que cela s'est passé, mais on n'arrive toujours pas à déceler les chevaux au niveau du Cameroun, parce que on attend de pied ferme la décision qui va sortir de cette audition de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, au Caire dans la semaine.
Alors pour que lui dans le reproche-t-on
Cameroun, à cette particularité, oui Ami,
que
oui,
lui,
Ami,
que lui oui, reproche-t-on exactement?
Pardon? Que je
lui,
vous écoute.
Que lui reproche-t-on exactement?
On reproche à Samuel Eto'o sa complicité entre guillemets avec certains présidents de clubs. Il faut dire que il y a une équipe qui s'appelle Victoria United qui a déjà d'ailleurs été champion du Cameroun cette année 2024, qui en 2022-2023 était encore en Ligue 2 et le président de cette équipe est très proche de Samuel Eto'o, Valentin Coin, qu'on annonce très proche, qui est certainement celui, une des personnes qui a soutenu Samuel Eto'o dans sa quête pour la présidence de la Fédération Camerounaise de Football. On soupçonne une certaine complicité. On soupçonne Samuel Eto'o d'être complice de ce président-là qui pourrait truquer des matchs, qui pourrait avoir truqué des matchs par la désignation de certains arbitres portés à la victoire, pour porter à la victoire cette équipe de Victoria United. Les soupçons ont été, depuis la saison où Victoria United était encore en Ligue 2, ils ont été champions de Ligue 2 et ils sont montés en Ligue 1. Et cette année, ils ont été champions de Ligue 1. Alors, il y a une certaine des sons qui se sont retrouvés sur la place publique, sur les réseaux sociaux, qu'on disait être une conversation téléphonique entre le président de la fédération et le président Valentin Coin de Victoria United. On l'accusait de dire là-dedans qu'il va désigner, qu'il va faire désigner des arbitres qui pourraient, n'est-ce pas, donner des victoires à cette équipe-là. Mais il fallait maintenant le prouver, et c'est pour cela qu'il a été auditionné par la commission à la CAF. Et tout le monde attend de savoir si effectivement on confirme qu'il est complice. Et peut-être certains attendent même sa suspension, parce qu'on se dit que sa présence est peut-être gênante au niveau de la Fédération Camerounaise de Football.
Un personnage du football qu'est Samuel Eto'o, qui ne laisse personne indifférent. Ma toute dernière question, mon cher David, concerne les JO, les préparatifs. Le Cameroun a été champion olympique de football en 2000. Il y a eu de grandes championnes, notamment Françoise Mango. Aujourd'hui, quelles sont les véritables chances, ou en tout cas, quels sont les représentants ou les porte-drapeaux du pays des Lions Indomptables?
Pour l'instant, il y a 6 athlètes qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Il y a 2 nageurs, il y a une judokate, il y a 2 pongistes, et il y a le sprinter Emmanuel Essémé, champion du Cameroun, recordman du Cameroun des 100 mètres, qui vient de décrocher 2 médailles au 23e championnat d'Afrique d'athlétisme qui se sont déroulés à Douala entre le 21 et le 26 juin dernier. Donc, je pense que c'est le porte-drapeau qui s'est mis en branle sur la piste de l'athlétisme de Japoma, que vous connaissez bien. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que vous savez que par un mécanisme de solidarité, le Cameroun peut avoir beaucoup plus de participants encore à cette compétition, parce qu'il y a des athlètes au sortir des championnats d'Afrique d'athlétisme qui ont un ranking qui se rapproche de ceux qui peuvent être qualifiés par le mécanisme de solidarité ou bien par le mécanisme de classement au point. Et vous savez que pour la solidarité, les performances de nos nageurs, par exemple, ne peuvent pas leur permettre de faire des minima. Et donc, il y a 2 jeunes nageurs qui sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris. Mais ce sont des très jeunes, parce que d'ailleurs le garçon, il a 17 ans, Giorgio Amani Guichier, qui sera à suivre dans le 50 mètres de ce côté à Paris. Mais les chances de médaille du Cameroun, c'est bien Emmanuel Essémé, le sprinter, qui vient de décrocher une médaille d'argent et une médaille de bronze. C'était respectivement aux 100 mètres et aux 200 mètres. Au 23e championnat d'Afrique d'athlétisme qui se sont déroulés à Douala.
Merci infiniment David Eyengue pour toutes ces explications des championnats qui ont été un peu critiqués au niveau de l'organisation. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet très prochainement. Direction Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour trouver Elisabeth Goli. Bonjour Elisabeth. On va voir Elisabeth dans quelques instants. Elisabeth qui sera prête. Voilà, elle est proche, elle est prête. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Amine.
Alors, on va parler bien évidemment de Mercato, des grandes stars ivoiriennes, notamment de Seko Fofana, qui a jeté un froid sur son avenir avec Al Nassr d'Arabie Saoudite.
Oui, effectivement. Bon, les Ivoiriens veulent savoir à tout moment où vont évoluer leurs stars, notamment Seko Fofana, qui a
jeter ce coup de froid. Bon, on attend tous de voir. Il en est de même également pour Sébastien Haller, dont on parle lors d'un départ vers le Mexique. Partira-t-il de Dortmund? Partira pas? Seko Fofana partira? Partira pas? Vraiment, c'est tout le monde est dans l'attente. Voilà.
Partira, partira pas, tout le monde est dans l'attente, mais il a jeté un grand froid sur ses déclarations n'ont laissé personne indifférent, notamment en Arabie Saoudite, ont misé sur sa capacité à réaliser une meilleure deuxième saison aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Sadio Mané.
Oui, effectivement, je sais que ses employeurs auraient bien voulu aimer le voir continuer parce qu'il a fait une très belle prestation, une prestation qui continue même d'ailleurs de démontrer. On a vu dans les matchs des éléphants, c'est lui qui a été le catalyseur de différentes rencontres qu'il y a eu plus récemment. Donc, je crois que c'est un coup de foi tant pour ses employeurs que pour ses nombreux admirateurs en Arabie Saoudite.
Ça veut dire qu'il a été transféré en deuxième partie de saison à l'Ittihad et qu'il a fait une meilleure deuxième saison. Lui qui s'est senti beaucoup plus à l'aise avec le maillot ivoirien, est-ce que ça suppose qu'il envisage de retrouver le vieux continent pour pouvoir être encore plus compétitif et défendre encore mieux les couleurs de son pays?
Oui, je pense bien, parce que moi, ce que je peux dire à l'observation, c'est vrai que il y a suffisamment d'argent en Arabie Saoudite, mais au niveau du jeu, au niveau du suivi des athlètes, je crois que c'est le vieux continent qui offre le plus d'opportunités aux athlètes d'être mieux suivis, tant par leur pays, parce qu'on a souvent des difficultés à avoir accès aux championnats de ce pays-là, de ce continent et autres. Donc, je crois que le championnat le plus suivi, dont le niveau est le plus relevé, c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de stars qui se sont retrouvées en Arabie Saoudite, parce qu'on a vu des Ronaldo, des Sadio Mané et autres partis en Arabie Saoudite. Mais je sais que le cœur de tous ces athlètes reste toujours sur le vieux continent.
Alors pour terminer, Elisabeth, on se passionne pour l'Euro, la Copa América. Justement, les Ivoiriens, vers qui penchent-ils? Est-ce qu'ils sont plutôt pro-français ou bien, c'est pour une fois, l'avis ou les goûts sont plutôt divisés?
Les goûts sont divisés, pro-français, pas trop en Côte d'Ivoire. Il y a aussi les pro, si on part au niveau de la Copa América, c'est les pro-argentins.
Les pro-argentins pour soutenir un certain Lionel Messi qui risque de manquer la compétition. Alors, dernière question, il y a une sortie médiatique de Simon Adengra qui a révélé qu'il y avait eu des cadeaux très originaux de la part des responsables les plus hauts de l'État ivoirien et surtout qu'il avait refusé une autre sélection. Voilà des déclarations du joueur de Brighton & Hove. Très intéressante comme approche et surtout très intéressante comme sortie médiatique avant le début de la saison.
Oui, effectivement, c'est une sortie qui a attiré l'attention de beaucoup de personnes, notamment en ce qui concerne les cadeaux offerts par le chef de l'État après leur victoire à la CAN, où il a dit que bon, le chef de l'État, effectivement, dans la déclaration officielle, c'était 50 millions en espèces, en fait, on leur remettrait plus un appartement, une villa d'une valeur de 50 millions, bon, selon Adengra. Ben, les aînés leur auraient demandé de prendre 100 millions plutôt que de prendre 50-50 et plus bon pour pouvoir eux-mêmes acheter leur maison, construire la maison qu'ils veulent et autres. Bon. Est-ce vrai, est-ce faux? Bon, comment ça s'est déroulé à la fin? Pour le moment, on n'a pas encore d'informations officielles, effectivement, de ce côté qui dit qu'on leur a remis 100 millions pour que chacun construise sa maison, parce que je me souviens qu'après la Côte d'Ivoire, après Sénégal 92, les vainqueurs dont Alain Gouaméné et autres, Abdoulaye Traoré, Youssou Fofana et autres, ont tous bénéficié de superbes maisons de la part du chef de l'État à l'époque, Félix Houphouët-Boigny. Donc, et ça a été concrétisé. Ils vivent tous dans des quartiers chics d'Abidjan et autres. Donc, pour ces jeunes gens, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, on sait que la valeur marchande de ces jeunes gens est supérieure à celle de ceux qui ont évolué au Sénégal 92. Donc, ils ont beaucoup plus d'argent. Bon. Une villa de 50 millions, peut-être que c'est un peu plus petit et autres, donc peut-être que c'est la raison pour laquelle on leur a demandé de prendre 100 millions et puis bon, sûrement peut-être qu'ils vont eux-mêmes rajouter pour pouvoir s'acheter s'offrir encore des maisons plus immenses et autres. Donc,
voilà un peu ce que merci infiniment Elisabeth Gauly pour ce passage très sympathique. Il est 10h46, il reste une escale à Tunis, une autre à Kinshasa et si le temps le permet, un passage par Ouagadougou chez notre ami Jean-Modeste Ouedraogo. Alors, est-ce que notre ami Ahmed Adala est des nôtres? Alors, on peut envisager de passer du côté de la RDC. Ahmed Adala, voilà. Ahmed Adala, bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous?
On suit avec passion l'Euro et on a beaucoup de sympathie pour le sélectionneur adjoint de la Géorgie, un certain Adel Shedli, notre, comment on dit en arabe, Nsibna, c'est-à-dire notre beau-frère, puisqu'il est marié à une Marocaine. Quel parcours de Adel Shedli et surtout quelle reconnaissance en tant que futur, peut-être sélectionneur de la Tunisie, en tout cas, futur grand entraîneur?
En fait, il est dans ses premiers pas. Il a avoué déjà à maintes reprises. Il avait dit à maintes reprises aussi, Willy Sagnol l'a sauvé peut-être d'une situation, et quand je reprends ces mots, c'était une situation catastrophique et du coup, c'est une opportunité à saisir. D'ailleurs, pour information, Willy Sagnol et Adel Shed, ils ont été proposés par des agents à la Fédération tunisienne de football, mais ça n'a pas abouti. En fait, ils croyaient pas à une qualification historique à l'Euro déjà, et là, une qualification au deuxième tour avec 10 millions d'euros comme cadeau qui ont été offerts par un homme d'affaires, c'est une occasion en or quand même, hein, Amine. Ça ne se rate jamais, ça ne se rate pas.
Une opportunité qui ne se rate pas, justement, ils passeront un examen, les Géorgiens, contre l'Espagne. Ça pourrait rappeler un Espagne-Maroc de Coupe du Monde 2.0. Et puis, au rayon Mercato, il y a un aigle de Carthage en passe d'être transféré au prestigieux Shakhtar Donetsk ukrainien.
Il a été déjà transféré. L'annonce a été faite par le Shakhtar Donetsk, le géant ukrainien, le tenant, le club le plus titré en championnat, si je me trompe pas, avec un montant vraiment qui est vraiment très alléchant, le club sportif faxien qui passait par des moments sombres il y a 2 ans ou 1 an et demi, là avec le nouveau bureau, ils ont su commercialiser un défenseur qui a été approché par le CSKA Moscou en janvier dernier et ils ont préféré attendre, se patienter et là l'attente a donné ses fruits. 2 millions d'euros, c'est quelque chose quand même pour un club comme le club sportif faxien. Tout le monde est content, le défenseur il est content, le club il est content et tout le monde d'ailleurs est content parce que ça fait un bail, ça fait un moment qu'on n'a pas vu un très bon transfert, au moins sur le plan financier d'un joueur tunisien. 2 millions d'euros, c'est quelque chose, tout en sachant que le club sportif saxien a aussi l'opportunité de vendre un autre joueur, une pépite, Youssef Becha, un jeune ailier de 19 ans, qui pourrait être transféré à un club français. On va attendre, on va patienter. Et le club sportif saxien qui d'ailleurs va tout de suite commencer à dépenser puisque il s'est mis d'accord avec l'entraîneur de Petro Atletico. On parle d'Alexander Santos qui a fait des merveilles la saison passée et la saison d'avant en Ligue des Champions CAF. Il sera le prochain entraîneur. Il n'arrivera pas seul. Il va peut-être arriver avec des joueurs à l'instar du milieu de terrain Toro qui est originaire de l'Honduras.
Et ça nous donne un joli mercato tunisien, que ce soit avec l'arrivée d'entraîneurs réputés ou le transfert de joueurs qui sont le produit du terroir, le produit du football tunisien. Merci infiniment.
Merci. Exactement, mais il y a aussi un autre transfert qui a fait parler de lui, qui a fait le buzz hier, c'est le transfert d'un portier qui a été pressenti au Maroc. On parle évidemment de gardien de l'équipe nationale, le gardien émirat Béchir Ben Saïd, qui à 32 ans vient de signer avec l'Espérance sportive du Tunis un contrat de 3 ans.
Il était pressenti à la Renaissance sportive de Berkane. D'ailleurs, l'entraîneur de la RSB a carte blanche pour pouvoir faire son mercato et renforcer l'équipe en prévision de la prochaine saison. Alors, je ne manquerai pas l'occasion. Je pense que du côté de la Tunisie, on soutiendra de lundi l'équipe de l'Aïsfar, rien que pour la dernière sortie de Nasser Dinabi. Alors, justement, donc Ahmed Adela nous a quittés, mais c'est vrai que ce sera le cas. Allez, pour terminer, une escale, la dernière, du côté de la République démocratique du Congo avec notre ami Michel Taubeau qui va nous faire une synthèse de l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo où les compétitions nationales battent leur plein. Bonjour Michel.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci hein, de m'accorder encore ce moment justement pour réagir par rapport à l'actualité sportive en République démocratique du Congo. On va parler d'abord, on va dire, du mercato, hein, donc comme le programme le veut, mais on va parler pour mercato ici, en République démocratique du Congo. Voilà, on va prendre nécessairement l'AS Vingt Club, hein, qui fait, on va dire, un début de recrutement à, on va dire, assez réluisant quand même, hein. Voilà, les Dauphins Nord de Kinshasa avec Abdeslam Ouadou, hein. Voilà, ça doit vous intéresser là-bas, du côté du Maroc, hein, qui est en train de, voilà, de faire peau neuve, tout simplement parce que l'équipe, voilà, a pris la sixième place, je vous le disais déjà la semaine dernière, hein, la sixième place au championnat national, hein, donc lors de la deuxième phase. L'équipe n'a pas pu se qualifier directement pour la Coupe d'Afrique au niveau du championnat. Et elle a dû se rabattre sur la Coupe du Congo qu'elle a remportée, voilà, justement, qui va lui permettre justement de jouer la Coupe de la Confédération la saison prochaine. Vingt Club n'a pas tardé, justement. Hein, Vingt Club a déjà commencé à faire son recrutement. Il y a déjà près de 10 joueurs, essentiellement des expatriés, hein, voilà, et qui ont déjà signé du côté donc de l'AS Vingt Club. Voilà, et l'équipe est en train de se refaire petit à petit avec l'apport du nouveau sponsor de l'équipe, hein, je vous le disais tantôt, et disons la semaine dernière également avec voilà l'entreprise turque qui est en train, voilà, de construire l'arène, la salle des sports de Kinshasa, hein, voilà, qui a mis des moyens justement avec le stratège, hein, l'ancien premier vice-président de la Fédération guinéenne de football, Amadou Diaby, qui a des fortes acquaintances congolaises, hein, parce que sa mère est congolaise, voilà, mais il a grandi du côté de la Guinée, donc voilà, il s'y connaît en football, donc voilà, il a été élu au milieu de la saison président de l'AS Vingt Club, en remplacement de la toute première femme présidente d'une équipe en démocratie du Congo, Bestine Kazadi, voilà, qui n'a pas fait long feu malheureusement, hein, deux saisons à peine, voilà, au sein de l'AS Vingt Club. Donc Vingt Club est en train de faire un bon recrutement, voilà, bon, et on espère que les résultats viendront sur le terrain, hein, Vingt Club qui veut aller concurrencer Mazembe la saison prochaine, hein, et il se peut même qu'il y ait une super coupe. Voilà, et c'est un match qui ne s'est plus joué depuis il y a plusieurs saisons maintenant, parce que la Coupe du Congo est, entre guillemets, on va dire, négligée un tout petit peu. Voilà, donc la Super Coupe, ce match ne se joue plus, mais cette saison, l'intérêt vaudra quand même le détour, hein, parce que Mazembe a remporté le championnat national et Vingt Club a remporté la Coupe nationale. Donc un match Mazembe Vingt Club en début de saison, voilà, apportera certainement un peu plus du tonus au début de la saison, hein, et c'est là où on pourra peut-être voir, mais c'est pas encore confirmé, hein, mais voilà, donc là je suis en train de supputer, c'est pas encore confirmé. Voilà, on aura des positions de plus en plus sûres pendant peut-être l'entame, avant l'entame de la saison sportive prochaine, hein, ça sera certainement au mois de septembre, fin septembre, début octobre. Mais là, toutes les équipes, en tout cas, qui sont en train de recruter. Mazembe, officiellement, n'a pas encore fait de recrutement, mais bon, on connaît l'équipe de Lubumbashi, hein, qui est en train de recruter certainement en coulisses. Voilà, mais du côté de Vingt Club, ça s'est fait publiquement. 10 joueurs déjà sont arrivés du côté de l'AS Vingt Club, et on espère que la mayonnaise tiendra et que Vingt Club pourra bien évidemment aller conquérir le titre la saison prochaine et concurrencer Mazembe comme il se doit. Mais du côté des Jeux Olympiques, hein, je vous le disais tantôt également, ce n'est vraiment pas la grosse fête au sein de la délégation congolaise, hein. Aux dernières nouvelles, la délégation congolaise sera composée de 32, voilà, c'est le nombre que nous avons pour le moment. On ne sait pas si ça va augmenter ou baisser, avec 7 athlètes tout simplement, voilà, 7 athlètes dont 3 boxeurs qui ont reçu leur qualification, et les 4 autres voilà, qui ont été invités, hein, pour, on va dire l'universalité, c'est comme ça que ça se dit. Voilà, les athlètes congolais on se préparent, voilà, timidement quand même, hein, timidement. Il y a un stage, on aurait appris également du côté du Comité national olympique congolais, un stage de près de 10 jours avant donc les Jeux de Paris, les 26. Il y a un stage qui est prévu au niveau, directement au niveau de Paris, hein, pour ces athlètes. On verra, on aura des confirmations d'ici la semaine prochaine, certainement. On va vous confirmer. Mais bon, ce qui est sûr, je vous le disais également, donc moi personnellement, je n'attends rien d'extraordinaire, voilà, de la part de cette délégation, parce qu'il y a énormément à faire au niveau du sport congolais pour que la République démocratique du Congo aille récupérer, on va dire, une médaille olympique dans les prochaines années. Ça commencera par les infrastructures et à mettre en place des structures capables justement de relever les niveaux et des athlètes et des cadres techniques. Ce n'est que de cette manière que la République démocratique du Congo pourrait contester une médaille olympique. Mais pour le moment, il n'y a rien, mais alors rien qui est fait. Donc, il n'y a rien à espérer. Voilà. À moins des miracles, hein, voilà, c'est toujours comme ça. À moins des miracles, en tout cas. Voilà, et je ne pense pas que la République démocratique du Congo remportera encore une médaille olympique cette année. Voilà, on dira peut-être que je suis pessimiste, mais voilà, je suis observateur du sport congolais. Voilà, depuis près d'une vingtaine d'années maintenant, donc voilà, je sais de quoi je parle. Il y a énormément du travail à faire, voilà, sur le plan de la restructuration, voilà, du sport en général, et la mise des moyens du côté des autorités qui considèrent le sport comme étant voilà une activité de loisir, voilà, de sous-zone, alors que aujourd'hui le sport se professionnalise de plus en plus, alors que officiellement en République démocratique du Congo le sport n'est pas professionnel. Et de cette manière, voilà, on peut pas espérer avoir une médaille olympique dans ces conditions. Voilà, Amine Birouk, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à l'actualité sportive en République démocratique du Congo. On se retrouvera certainement la semaine prochaine pour d'autres actualités et pourquoi pas rebondir sur le sujet dont nous avons parlé ce matin. Merci à vous et bonne continuation.
Tout à fait, Michel, merci. C'était la meilleure conclusion possible de ce numéro qui nous a permis de faire un peu le tour du continent. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour continuer à scruter. Il y aura beaucoup de choses à dire, surtout que le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 prévu dans notre pays se déroulera en milieu de semaine. Merci à notre ami Abdelsamad qui a assuré la mise en onde. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, il n'y a pas que le foot Makeshre El Kora avec la très sympathique Leila Moujim. À la semaine prochaine.
Better day, yeah. Whoever said that the struggle would stop the day, a lot of niggas.